Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans les déserts, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? Moïse cria vers le Seigneur : Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse : Passe devant le peuple. Emmène avec toi plein d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fut les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Meriba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mise à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous ?» Parole du Seigneur.
Jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Écoutez la voix du Seigneur.
Entrez, inclinez-vous. Prosternez-vous, adorons le Seigneur. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais
aujourd'hui, ouvrez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert. Oh, vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient mon exploit.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu est dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur.
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu.
Vraiment le sauveur du monde, Seigneur, donne-moi de l'eau vive que je n'ai plus soif.
Gloire au Christ, éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur.
Le soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Ce don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Que cette eau vive, serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites, que vous adorez est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'aurez plus, où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent et ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu ? » Ou bien, « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté envoyée et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas, « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi, je vous dis, « Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. » Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Les primaires sont invités à suivre le Père Jean-Christophe. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Les moments de crise suscitent toujours des questions auprès des hommes. Pourquoi ces épreuves? Pourquoi moi? Outre le questionnement, ces crises lèvent le voile sur la nature et la qualité des relations que nous pouvons entretenir avec Dieu. Et le peuple d'Israël n'échappe pas à cette réalité. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, sorti d'Égypte, éprouvé au désert par la soif, il s'en prend à Moïse, récrimine et s'interroge. Dieu est-il vraiment au milieu de nous, oui ou non? Se demande-t-il. L'interrogation, frères et sœurs, pose la problématique de l'idée que nous nous faisons de Dieu. Et la réponse à cette problématique est tributaire des projections imaginaires que les hommes ne peuvent s'empêcher, je dirais, de faire sur Dieu et sur... De sorte qu'ils sont vite contrariés quand les choses ne se déroulent pas justement comme ils l'imaginent. Et nos révoltes révèlent ainsi la vision étriquée que nous nous faisons, non seulement de... aussi des privilèges que nous pensons être les nôtres, en tant que croyant. Or, écrit Saint Paul dans la deuxième lecture, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que corps pécheur. Ce qui signifie, frères et sœurs, que Dieu prend soin de tout homme, sans aucun mérite de sa part, gratuitement, en tout lieu et en tout temps. Son amour n'attend pas. Il est le mouvement de nos cœurs. La prière d'ouverture le rappelait. Dieu est source de toute bonté et Dieu est d'abord amour. Comment peut-il donc être insensible à... ou comment peut-il encore être la source de nos malheurs, comme peut le laisser sous-entendre le questionnement d'Israël? Et cette prière d'ouverture nous dit combien les soupçons portés sur Dieu, je dirais, empoisonne nos vies de chrétiens. Elle dit combien, du moins elle nous rappelle qu'être frères et sœurs, qu'être enfant de Dieu ne nous exempte pas automatiquement des épreuves. Cette vérité, il faut l'entendre et bien l'entendre. Ce n'est pas parce qu'on ne doit pas souffrir. Cela n'est pas du tout vrai. D'ailleurs, ne prions-nous pas que ta volonté soit faite dans le Notre Père. Mais au fond, sommes-nous véritablement prêts à accueillir cette volonté de Dieu en nous? Car accueillir la volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre. Et accepter que les voies de Dieu nous soient impénétrables exige parfois de nous une confiance qui ressemble à un chèque en la foi, tout simplement. Oui, la foi. C'est la confiance que même si les apparences sont contraires, Dieu nous veut libres. Dieu nous veut vivants, heureux. Et que de nos situations d'échec, de mort, il fera jaillir la liberté, la plénitude et la résurrection. Oui, Dieu en est capable. Mais seule la foi et la confiance renouvelées en Dieu, seule la foi et la confiance renouvelées nous font entrer dans ce mystère, sens à la présence de la souffrance dans nos vies. Oui, nous voudrions être heureux et vivre dans un monde de paix sans en payer le prix. Ce prix, Dieu l'a déjà payé pour nous, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture, puisque son Fils est mort pour nous, alors corps pécheur. Mais ce monde, Dieu ne veut pas le faire sans nous. Et dans la première lecture, quand Moïse frappe le rocher, nous pouvons comprendre qu'il nous invite aujourd'hui, dans nos situations de difficulté, à frapper même avec insistance, par la prière, la supplication et la charité, pour obtenir de lui de quoi ne pas mourir de soif ici-bas, dans notre traversée du désert. Nous avons entendu dans le psaume que nous avons médité une phrase « Et pourtant ils avaient vu mon exploit ». Oui, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Malgré les œuvres accomplies par Dieu pour faire sortir Israël d'Égypte, le peuple qui a soif n'est plus capable, je dirais, de faire manque de foi et de patience envers le Seigneur. Israël a la mémoire courte. Ce verset du psaume, frères et sœurs, dépeint pourtant une triste réalité que nous avons à méditer aujourd'hui, quand nous sommes dans nos difficultés. Oui, car comme Israël, nous oublions facilement les bienfaits du Seigneur, habitués et familiarisés aux merveilles que le Seigneur accomplit quotidiennement dans nos vies, au point d'en devenir indifférents. Hélas, une certaine vie d'abondance et de sécurité nous empêche aujourd'hui d'apprécier vraiment ce que nous sommes et ce que nous avons. Nous ne savons plus nous émerveiller du souffle de vie, de la nourriture quotidienne, de notre possibilité de vaquer librement à nos occupations. Oui, tant de merveilles que nos yeux et nos esprits considèrent comme un droit, de sorte que la moindre contrariété a crié à l'abandon. Mais pensons un tant soit peu à celui qui ne s'est pas réveillé aujourd'hui. Pensons à celui qui n'a ni à manger ni à boire depuis des jours. Celui qui n'a pas un seul instant de paix à cause de la guerre. Oui, frères et sœurs, ce n'est qu'en contemplant avec foi et émerveillement notre ordinaire, comme des nouveaux-nés s'émerveillent du monde dans lequel ils entrent, que nous pourrons vivre une véritable relation de confiance avec le Seigneur, affronter la vie qu'il nous donne. Comme à la Samaritaine dans l'évangile de ce jour, Jésus dit à chacun de nous, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle, oui, cueillir la révélation que Jésus nous fait de Dieu et de son action, c'est le seul moyen pour cultiver la confiance en lui. Tout en apprenant à dire plus souvent merci à Dieu aujourd'hui, apprenons aussi à accueillir Dieu qui se révèle et non pas comme qu'il soit. Et dans cette dynamique, la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, on pourrait dire, est une belle leçon de cheminement spirituel pour nous. Oui, cette Samaritaine, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, n'entre pas dans les bonnes catégories, divorcée, remariée, vivant en concubinage, étrangère, de la mauvaise religion, une femme. Elle est hors communauté, elle est impure et immorale. Et on peut comprendre de notre humanité meurtrie, fatiguée, pécheresse. Et dans sa situation, elle a bien raison d'être surprise par la question du juif. Comment, toi, juif, tu me demandes à boire? Pourtant, c'est à cette fille, à cette étrangère de mauvaise vie que Jésus propose l'eau vive qui purifie et fait entrer dans le mystère de Dieu. Mais il faut le noter, C'est parce qu'elle accepte le dialogue, alors que Juifs et Samaritains se vouent une haine réciproque. C'est parce qu'au lieu de fuir de honte au regard de son lourd passé, c'est parce qu'elle confesse courageusement et en toute confiance son état de pécheresse dans l'humilité que Jésus brise sans hésitation les barrières géographiques, les convenances sociales, les intérêts, afin d'étancher, sa soif non comblée d'amour, même après une errance auprès de 5 maris plus un qui n'est toujours pas le sien. C'est la preuve que Dieu ni ne se dérobe jamais à ceux qui l'accueillent. Preuve aussi que Dieu est toujours présent pour nous dans les tempêtes de nos vies. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, dit Jésus. Et quand Jésus nous parle, sœurs, il nous ouvre un avenir insoupçonné. La situation de la Samaritaine nous montre qu'il y a une grande indigence. Oui, cette soif particulière de paix, de liberté, d'amour, de bonheur, d'absolu, de vie éternelle, doit être comblée par des moyens matériels, des moyens quantifiables, des moyens qu'on peut acheter ou amasser, mais seulement par Jésus seul. Oui, l'eau que je donnerai deviendra en celui qui la boit, source jaillissante pour la vie éternelle. Symbole du sacrement, moyen de la présence agissante et transformante de Dieu. La Samaritaine qui la reçoit de Jésus au prix de la confession confiante de sa vie est restaurée dans sa dignité d'enfant d'Abraham, socialement et spirituellement. Elle peut déborder de joie et Jésus peut dire avec satisfaction à ses disciples « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, c'est-à-dire sauver ce qui était perdu. » Entrer dans ce cheminement de la Samaritaine exige pour nous croyants de reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés, que nous avons besoin de cette rencontre avec le Christ, nourriture pour notre âme. Reconnaître que nous sommes les prostituées, les Samaritaines, qui savent que seul le Christ peut les sauver parce que le monde les rejette. C'est le cheminement auquel est invité, du moins tout croyant, et c'est ce cheminement auquel, dirais-je, nos jeunes de tout à l'heure sont également invités, ceux que nous accueillerons dans l'église, nos catéchumènes. Et la prière d'ouverture nous y encourage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous. Ce qui suppose, frères et sœurs, d'oser un dialogue franc avec Dieu comme la Samaritaine, d'accepter que la sainte questionne nos vies quotidiennes de baptisés. C'est aussi répondre à l'invitation de Jésus à laisser l'Esprit Saint guider nos vies. L'heure vient, et c'est maintenant, dit-il, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les âmes que recherche le Père. Entrer dans le chemin de la Samaritaine, c'est passer nous aussi d'une connaissance théorique à une rencontre personnelle et vitale où chacun de nous doit reconnaître le don de Dieu comme la source de sa vie. De sorte à pouvoir, comme la Samaritaine, venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? Dans la foi et la confiance, frères et sœurs, laissons donc Jésus s'approcher de nos vies, afin qu'avec saint Paul nous puissions dire « Je vis, mais ce n'est plus moi, Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et aussi, ce que je le suis par la grâce de Dieu. » Plein de reconnaissance, nous te disons merci à toi, Dieu notre Père, qui nous aime et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.